commence un livre dès la première page. Je fais connaissance avec des personnages. Je m'embarque avec eux dans de drôles d'aventures, passé, présent et parfois même futur. Un livre ça délivre, ça détend et ça rend ivre. Plongé dans un bouquin, ça change et ça fait du bien. Fini les galères, fini les misères. J'oublie mes soucis, j'oublie même qui je suis. Et d'un seul coup.
Eh bien, des livres, L'Oiseau des Lires est là pour vous aider, pour vous conseiller, vous accompagner dans vos lectures. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet assez sérieux, très sérieux même, l'embrigadement des jeunes qui partent en Syrie. L'an dernier, nous avions dans Les Dévoreurs de Livres un roman, Je t'enverrai des fleurs de Damas, de Franck Andria, qui nous racontait le départ de deux jeunes, pour la Syrie, et surtout il nous parlait du ressenti de ceux qui restaient, la difficulté de comprendre. C'était un très très bon roman, et les adolescents à la remise des prix nous ont dit qu'ils auraient aimé savoir comment on les avait embrigadés. Et depuis sont parus des romans qui nous racontent cet embrigadement. Et ces romans, je vais vous les présenter aujourd'hui. Donc d'abord, Ma meilleure amie s'est faite embrigader, de Dounia Bouzard. C'est l'histoire de Camille, qui est embrigadée par les djihadistes, et de Sarah, sa meilleure amie, qui tente de l'aider. Au départ, c'est tout simple, elles ont un devoir à faire, elles sont amies, elles ne se quittent pas, et elles vont aller sur Internet pour faire ce devoir, et l'une va simplement faire son devoir, et l'autre va se rendre compte qu'il y a des choses cachées, et elle va aller surfer sur Internet, et elle va trouver tout ce que disent ceux qui veulent les embrigader, tous les mensonges, tout ce qu'il faut savoir, elle va complètement surfer d'un site à l'autre et se faire manipuler. Et sa meilleure amie, sa famille, assiste à son embrigadement, mais sans se rendre compte vraiment de ce qui se passe. Peu à peu, elle se coupe de son amitié avec Sarah. Sarah qui n'arrive plus à l'accompagner. Elle avait un petit copain avec qui elle faisait des maths. Bien sûr, elle rompt. Elle ne s'habille plus, elle ne se maquille plus. Elle a des vêtements informes. Elle ne va plus au cours de gymnastique. Elle ne fait plus rien. Elle s'enferme. Ses notes chutent, mais personne ne comprend ce qui se passe. C'est l'horreur pour la famille. C'est l'horreur pour l'ami. Et Camille va donc finalement réussir à partir. Heureusement, elle va être arrêtée avant d'arriver en Syrie et rapatriée. Et on va assister à sa déradicalisation, où elle raconte comment ça s'est fait. Et dans ces rencontres qui ont lieu, les adultes mettent ensemble des jeunes qui ont fui aussi pour confronter leurs récits, pour les aider. Et Camille reprend son récit. Elle insiste sur le fait que les rabatteurs coupent les jeunes de tous ceux qui les entourent et qui les aiment. Ils nous balancent au milieu de la mer et savent bien que nos parents constituent notre seule bouée de sauvetage. C'est pour ça qu'ils nous coupent de nos proches. Ainsi, le seul radeau restant à l'horizon est dirigé par Daesh. Elle pense que c'est aussi pour les couper de la famille qu'ils incitent les filles à porter de grands djellabas. Les mères sont horrifiées et se fâchent. C'est ce qu'ils veulent. Une fois que notre corps et notre esprit sont entre leurs mains, ils tentent d'éteindre notre cœur. Ils nous font visionner des vidéos immondes pour que l'on s'habitue à la cruauté. Moi, je finissais par me dire que chaque révolution a ses morts. Je banalisais les crimes comme s'ils étaient de simples erreurs de parcours. Je n'éprouvais plus aucun sentiment pour les traîtres. Et les traîtres, c'était tous ceux qui n'étaient pas chez Daesh. Ça ne me faisait plus rien de voir un homme coupé en morceaux. Plus rien. Ce n'était pas un homme, c'était un kafir. Et mes parents, peut-être que si on m'en avait donné l'or, j'aurais pu les tuer aussi. Ce n'étaient pas des humains à mes yeux, c'était des koufars. Je sens sa main trembler. Elle est devenue moite. Je la presse doucement pour lui dire que c'est du passé. Mais c'est trop tard. Camille se met à pleurer et je me rends compte que deux autres jeunes pleurent aussi. La psy hésite, mais Camille embraye. Son ton change. Malgré les larmes, il est plus agressif. Elle détourne les yeux de la psy et regarde les jeunes déstabilisés un par un, presque menaçante. N'oubliez jamais deux choses. D'abord, le paradis est au pied de nos mères. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le prophète. Alors vous devrez rendre des comptes là-dessus lors du jugement dernier. Et je vous souhaite de ne jamais vous retrouver dans ma situation. Parce que moi, je vais devoir en faire des bonnes actions pour me rattraper. Imaginez que quand un mec tape à la porte pour acheter un lampadaire, mes parents ne dorment plus pendant 5 jours en imaginant que Daesh veut me rattraper. La deuxième chose s'adresse à toi. Camille plante ses yeux dans ceux d'un jeune garçon qui a avoué n'avoir rien ressenti lors des attentats du Bataclan. Crois-tu que Dieu soit satisfait de toi lorsque tu dis que les attentats, c'est pas ton affaire? Tu ne connais pas l'importance de l'intention en islam. Si tu as approuvé ces meurtriers qui ont assassiné de sang-froid des innocents, c'est comme si tu étais leur complice. Si tu as approuvé les attentats dans ta niya, c'est comme si tu avais fait les attentats toi-même. Rien que pour avoir pensé comme ça, tu dois te faire pardonner. Crois-moi, le jour du jugement dernier, tu auras des comptes à rendre. Tu crois que tu vas t'en tirer en disant à Dieu « Je m'en fous des 130 morts, c'est pas mon affaire ». Le ton de sa voix est solennel. Un grand silence s'abat dans la salle. La psy se tait aussi et distribue des mouchoirs en papier. Tout le monde se mouche. Elle propose une pause. Et l'auteur, Dounia Bouzar, est une de celles qui aide ces jeunes à se réinsérer. Elle dit « J'ai écrit ce livre pour que vous sachiez que Daesh n'est pas l'islam, que Daesh n'atteint pas que des jeunes de familles musulmanes, que Daesh ne se présente pas avec son vrai visage. J'ai écrit ce livre pour que vous maîtrisiez les fils invisibles de Daesh, que vous soyez outillés pour voir, entendre, parler, déconstruire, tendre la main. J'ai écrit ce livre parce que je sens que votre génération sait une chose. Qu'est-ce qu'on se ressemble tous au-delà de nos différences? Personne ne peut vous séparer. » Et Dounia Bouzar est dans un film « Le ciel attendra » actuellement, qui vient de sortir et qui nous raconte un petit peu ce roman. « Ma meilleure amie s'est fait embrigader ». Elle nous raconte dans ce film ce que vivent ces jeunes actuellement. Donc allez voir le film, lisez le livre et parents et adolescents, lisez ce livre. Un autre roman, alors ce que je n'ai pas dit, c'est que Ma meilleure amie s'est fait embrigader et dans le prix des dévoreurs pour les 4e cette année. Donc il sera lu par beaucoup d'adolescents et c'est bien. Donc un autre roman qu'on avait proposé pour les 3e et qui malheureusement n'est pas resté, « Et mes yeux se sont fermés » de Patrick Barr. Et là, le roman est un peu différent parce que c'est une jeune adolescente aussi qui est en France, qui est revenue, mais elle, contrairement à Camille, a réussi à partir. Elle est partie, l'embrigadement se fait exactement de la même façon. Cela, je crois que finalement, où que l'on aille, c'est toujours la même chose. Et on assiste à sa réinsertion. Et quand elle revient, elle est enceinte. Et elle a fui, c'est elle qui a fui. Elle est aussi en rencontre. Nous nous sommes assises dans le salon. Rien de très original, un canapé, une télé. En dehors d'une porte blindée, nos locaux ressemblent à un vulgaire appartement de banlieue. J'avais sélectionné plusieurs témoignages pour travailler avec Maëlle, que j'ai appelée Aya, dès notre première rencontre, comme elle me le demandait d'une voix timide. Les témoignages de repentis sont un élément très important de notre dispositif de désembrigadement. J'avais choisi une déposition qui est devenue célèbre depuis, celle de Sonia. Sonia est l'une des très rares jeunes femmes à être revenue vivante de Syrie. Elle était très malade et devait subir une opération. Son mari l'avait autorisée à se rendre en Turquie où elle avait des chances de trouver un bon médecin. Apprenant la chose, ses parents avaient foncé là-bas pour la convaincre de revenir se faire opérer en France. Nous avions rencontré Sonia juste après sa sortie de l'hôpital et son interrogatoire par la DGSI. Dès la salle de réveil, elle avait demandé à rentrer chez elle. En Syrie, bien sûr. Toutes nos argumentations n'avaient mené à rien. Son mari, lui aussi, malade, souffrait d'une infection consécutive à l'amputation d'un bras. Elle semblait véritablement amoureuse de lui. Et cet amour me paraissait tout à fait réciproque, ce qui est très loin d'être toujours le cas. Sonia voulait le retrouver pour s'occuper de lui. Nous lui avions annoncé qu'il était, comme c'est souvent le cas pour les estropiés, sur une liste de martyrs destinés à mourir dans un attentat suicide. Du haut de ses 16 ans, elle nous a regardés, sans cilier, elle nous a lancé qu'il s'y était repris à 4 fois avant d'être accepté comme futur martyr. Elle a ajouté qu'elle l'aurait quitté s'il n'avait pas finalement réussi. Maëlle se tenait tête baissée, la mine impénétrable. Elle ne regardait pas l'image, se contentant d'écouter passivement ce qui se disait. En entendant les derniers mots de Sonia, elle a soudain relevé la tête et elle a souri. « Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui est drôle ? » ai-je demandé. « Je la comprends. Elle aime son mari. Elle veut le meilleur pour lui. Il veut le meilleur pour elle. Moi aussi j'aimais Redouane. Moi aussi je voulais le meilleur pour lui. Et lui pour moi. À une époque j'aurais pensé comme elle. J'aurais voulu que mon mari meure en martyr. J'aurais voulu élever son enfant dans sa mémoire comme un futur lion d'Allah. » Le sourire de Maëlle s'est effacé. Elle s'est tournée vers sa mère. « C'est le bébé, maman. Quand les roquettes sont tombées sur la maison, j'ai réalisé que mon bébé ne naîtrait peut-être jamais. Il aurait pu vivre et plus tard mourir en martyr, servir la cause, ça d'accord. C'est pas pareil. Mais Redouane et moi, on n'a pas supporté l'idée que peut-être il ne verrait même pas le jour. La pensée de mourir avec ce bébé en moi, dans mon ventre, je n'ai pas accepté. Je n'ai juste pas pu. Je me suis dit que jamais Allah, loué soit son nom, n'aurait voulu une chose pareille. Que les koufars nous fassent subir ça, c'était une chose. Et je les hais pour ce qu'ils nous infligent. Mais moi, je n'avais pas le droit de laisser arriver un truc aussi horrible. D'imposer ça à mon bébé. De lui imposer de ne même pas exister. Céline a voulu prendre Maëlle dans ses bras. Mais sa fille s'est reculée contre le dossier du canapé pour lui échapper. Elle a murmuré comme pour elle-même. Il y a seulement 6 mois... Tu serais venu me chercher en Turquie. J'aurais été capable de te dénoncer aux frères pour qu'ils te tuent. J'aurais été capable de monter un piège pour ça. Des fois, je me demande s'il est possible de réparer les âmes cassées. Pour Maëlle, il restait encore pas mal de travail. Et donc Maëlle avait fui avec son mari pour sauver cet enfant. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle nous raconte, contrairement à l'autre roman, ce qu'elle a vécu en arrivant là-bas. Et puis, il y a tous les témoignages de ceux qui l'ont accompagnée au cours de cet embrigadement, au cours de sa reconstruction. C'est vraiment un roman très très fort, peut-être plus littéraire que Ma meilleure amie s'est faite embrigader, et peut-être un tout petit peu plus difficile à lire, mais magnifique. La réaction de la maman, j'ai encore 2 minutes. Je ne comprenais pas, non, je ne comprenais vraiment pas. Un coup de drague sur Internet et nos filles étaient englouties par un conflit qui se déroulait à des milliers de kilomètres d'ici. C'était aussi simple que ça. Elles n'étaient que des fétus de paille livrées à la bonne volonté d'hommes qui les attiraient dans leur filet. Mais où était donc passé leur libre arbitre ? C'est ce que j'ai essayé d'expliquer à Bataglia. « Non, ce n'est pas aussi simple que ça, madame », a objecté l'inspecteur. « Les gens de Daesh sont peut-être cruels, mais ils ne sont pas stupides. Ils sont même d'excellents communicants. Leurs vidéos font envie, croyez-moi, et pour un ado épris d'idéaux, c'est très sexy. C'est d'ailleurs leur principal critère de sélection. Trouver des jeunes qui rêvent de s'engager contre l'injustice. Et c'est bien ce qu'ils proposent de faire. Ils leur offrent les moyens de réaliser un idéal. » Mais ma fille n'a rien à voir avec l'islam, que je sache. Elle n'a jamais mis les pieds dans une mosquée et on ne connaît même pas de musulmans. Madame Le Billon, 56% de ces jeunes sont dans le même cas que votre fille. La majorité d'ailleurs sont des filles qui n'ont reçu aucune éducation musulmane, voire pas d'éducation religieuse du tout. Mais Daesh propose de donner un sens nouveau à leur vie, l'aventure, l'absolu. Comment voulez-vous lutter contre ça ? Voilà, donc à lire, à partager avec vos ados, parce que je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de jeunes qui pourraient être séduits, tous ces jeunes qui ont envie d'un monde meilleur. Il faut dire que ce qu'on leur propose actuellement, c'est pas terrible. Donc voilà, des livres à partager. Et n'oubliez pas, ces livres s'empruntent en bibliothèque et s'achètent en librairie.
Un livre, quand tu l'ouvres, tout ce que tu découvres, ça paraît infini pour un truc si petit. Un livre, quand tu l'ouvres, tout ce que tu découvres, ça paraît infini pour un truc si petit.